si vous vous souvenez. Alors, quel est celui qui pourrait me dire l'interrogation qu'on a laissée au dernier cours de critique? C'est ça pour que vous essayiez de travailler entre deux, n'est-ce pas? Oui. Autrement dit, il y a un ordre du côté de la connaissance. Est-ce qu'on retrouve un même ordre du côté affectif? Autre question. C'est la même chose, vous voyez, d'une certaine manière. Est-ce que l'affectivité spirituelle peut avoir un mode substantiel, autonome, comparativement à l'affectivité imaginative, à l'affectivité passionnelle, sensible, ou à l'affectivité qui est érotique? Autrement dit, nous apercevons que notre vie intellectuelle est très liée à notre affectivité. Il y a une intelligence séparée de l'affectivité. On peut avoir une connaissance dite théorétique, spéculative, dite scientifique, dite mathématique, qui n'est pas liée à l'affectivité, qui demeure une connaissance, si vous voulez, à l'état pur. Ça, je crois, nous en sommes tous d'accord, il suffit de regarder le domaine de la science. Et c'est même souvent ce que le savant cherche, avoir une connaissance purement objective, c'est-à-dire totalement coupé du point de vue du sujet, totalement coupé de l'affectivité qui vient du sujet. Alors, puisque l'affectivité intervient, puisqu'il peut y avoir une connaissance affective, s'il y a une connaissance purement séparée de l'affectivité, il peut y avoir aussi une connaissance affective. Cette connaissance affective, elle s'empare en premier lieu de notre volonté, c'est-à-dire de notre affectivité spirituelle. Et la question se pose, cette affectivité spirituelle peut-elle se couper des autres niveaux d'affectivité? Vous voyez bien la question. C'est intéressant parce que ça permet de mieux distinguer ces deux domaines, le domaine dans l'ordre de l'intentionnalité. Progressivement arriver à comprendre ce domaine de l'intentionnalité. On essaiera de comprendre progressivement de mieux en mieux ce que c'est que l'intentionnalité. C'est important. C'est remis très en lumière aujourd'hui avec Brentano. Brentano a repris tout le problème de l'intentionnalité. Nous le retrouvons très fort avec tout le problème de Husserl, tout le problème de la phénoménologie. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre ce que c'est que l'intentionnalité. L'intentionnalité se distingue de la réalité existante. Du moins, nous la distinguons entre la réalité existante. Quand vous dites j'existe, ce que je suis une res qui n'est pas l'intentionnalité. Tandis que quand vous pensez la réalité, le fait que vous la pensez, vous réalisez en vous un domaine de l'intentionnalité. L'intentionnalité a des niveaux différents. Il y a l'intentionnalité au niveau intellectuel, l'intentionnalité imaginative, l'intentionnalité sensible. Ceci au niveau de la connaissance. En gros, tu vois, du côté intelligible, vous voyez bien, vous pourriez distinguer encore des traits, des niveaux multiples et divers, puisque vous pouvez distinguer le niveau philosophique, le niveau mathématique, le niveau scientifique, et ainsi de suite. Le niveau de l'expérience, le niveau artistique, le niveau affectif. Ce sont des niveaux différents dans l'intentionnalité intellectuelle. Dans l'intentionnalité spirituelle. Intellectuelle, spirituelle, comme on dira couramment, on dira l'intentionnalité spirituelle. ou intelligible. Intelligé, si vous voulez. Bon, je peux me poser maintenant la question, puisque l'affectivité intervient dans la connaissance, dans l'intentionnalité spirituelle. Elle peut être affective. La connaissance que j'ai d'un ami, c'est une intentionnalité affective. Alors, l'affectivité a-t-elle les mêmes niveaux? Oui, je peux dire qu'il y a une affectivité spirituelle. C'est vrai, c'est celle-là, l'affectivité spirituelle. Il y a une affectivité imaginative. Tout le monde connaît ce que c'est, les rêves. Les rêves éveillés, hein. Les rêves éveillés, pas les rêves quand vous dormez. Mais c'est quand même, ça peut être une affectivité imaginative. Puis une affectivité passionnelle. Puis une affectivité instinctive. Vous savez, tous ces domaines-là. Et tout ça est de l'ordre de l'intentionnalité. L'intentionnalité à ces niveaux différents. Alors, je me posais la question. Comme on s'était posé la question, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on s'était posé la question de l'ordre de ces différentes connaissances intellectuelles. En voyant qu'il y en avait une qui était première. Et puis, grâce à celle-là, je pouvais ordonner les autres. Parce que pour ordonner, il faut un principe. Princeps. Il faut un premier. S'il n'y a pas de premier, je ne peux pas ordonner. Bon, je vois dans l'affectivité. Alors, est-ce que je peux ordonner mon affectivité? J'ordonne mon affectivité en fonction de ma connaissance. Très, très bien. Mon affectivité s'ordonne, parce que toute affectivité implique une connaissance. Et j'ordonne mon affectivité en fonction de ma connaissance. Pourquoi n'y a-t-il pas un ordre de l'affectivité pour lui-même? Ça, je pose la question. Parce que ça, vous pouvez le deviner quand même, ça l'affectivité. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça dépend de la connaissance.
Oui, l'affectivité dépend de la connaissance, c'est sûr. Alors, donc, j'ordonne mon affectivité en fonction de mon intelligence. Tout à fait, parce que ça présuppose. Mais la connaissance ne détermine pas mon affectivité. Mon affectivité présuppose la connaissance. Mais ne la détermine pas. Je n'aime pas en fonction de ma connaissance, mais j'aime le bien pour lui-même. Il faut connaître le bien pour l'aimer. Mais mon amour ne dépend pas de ma connaissance, du moins n'est pas déterminé par ma connaissance, il est simplement conditionné par ma connaissance. Donc il y a une petite nuance importante à noter. Vous voyez ? Alors, je peux me poser la question, puis-je ordonner l'affectivité en elle-même? Puisqu'elle n'est pas déterminée par la connaissance, elle n'est que conditionnée. Je peux donc me poser la question, est-ce que je peux ordonner l'affectivité en elle-même? Y a-t-il une affectivité première? Une question intéressante à se poser. Et on se la pose en critique, parce que c'est forcé. Ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas en éthique que je me la poserai. Tandis qu'en critique, je dois la poser puisque je regarde l'ordre de l'intentionnalité. Et que l'affectivité implique, fait partie de cette intentionnalité affective. J'ai vu qu'il y avait une connaissance qui était une connaissance pure. Connaissance intellectuelle. Nous l'avions vu la dernière fois. Puis-je maintenant dire, y a-t-il un amour pur? C'est pas comme moi du tout comme réponse. Je la vois pas, je cherche avec vous. Parce que ce sont des questions qu'on ne se pose jamais. Étant donné qu'on ne pousse pas beaucoup la critique. Alors on ne se pose pas ces questions-là. Et c'est pourtant intéressant. Chaque fois qu'on a une précision plus grande, on voit mieux les rapports entre l'intentionnalité du côté de la connaissance et l'intentionnalité du côté affectif. Saint Thomas lui oppose et distingue toujours les deux grandes lignes, intelligence et volonté. C'est très vrai, il ne s'oppose pas à la question comme nous la posons ici. Alors, j'ai tout à fait le droit de me la poser, même non seulement le droit, mais je dois le faire pour mieux comprendre comment mon affectivité dépend de ma connaissance, mais je peux regarder mon affectivité pour elle-même. Alors, faisons le même procédé que la dernière fois. La dernière fois, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que la connaissance. Maintenant, posons-nous qu'est-ce que c'est que l'affectivité. Et une fois que j'ai posé qu'est-ce que c'est que l'affectivité, je pourrais voir s'il y a une affectivité pure. Vous voyez ? Vous voyez le procédé. Je suis en présence d'une intentionnalité affective diverse, multiple. Je vois que je peux l'ordonner par la connaissance, c'est très vrai, mais cet ordre par la connaissance n'est pas l'ordre propre de l'affectivité, puisque l'affectivité n'est pas déterminée par la connaissance. Si l'affectivité était déterminée par la connaissance, l'ordre de la connaissance déterminerait celui de l'affectivité. Mais comme la connaissance ne détermine pas l'affectivité, elle est simplement une condition nécessaire, je me pose la question, est-ce que l'affectivité a-t-elle en elle-même un ordre qui lui est propre? Alors, qu'est-ce que c'est que l'affectivité? Ça revient à quoi? Ça revient à qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est ça que ça revient, parce que l'affectivité, c'est l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affectivité, vous savez. L'affectivité, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est l'inclination vers le bien. C'est ce que dit saint Thomas. Je le prends ici, j'ai le droit en critique. Bon. Saint Thomas, on ne va pas faire tout un cours sur l'amour, parce que ce n'est pas directement notre propos. L'amour, c'est cet appétit vers le bien. C'est cette inclination vers le bien. Et pour qu'il y ait cette inclination vers le bien, il faut que je connaisse ce bien. Mais l'amour, proprement dit, c'est cette inclination vers le bien. C'est le bien qui détermine mon inclination, qui détermine ma manière de m'unir à ce bien, ma cooptation. Saint Thomas prendra encore ce mot-là. Quand j'aime, je suis parfaitement en adaptation vers le bien. Je suis modifié par le bien. Et donc, je suis en connaturalité profonde avec le bien. L'amour me connaturalise avec le bien. C'est le propre de l'amour, c'est de me connaturaliser vers le bien. Alors, si je prends ces définitions du bien, de l'amour, je vois que l'amour implique toujours le sujet. Le sujet, c'est-à-dire l'homme. La connaissance peut s'abstraire. L'amour ne peut pas s'abstraire. L'amour a toujours un mode concret. C'est l'appétit. L'appétit du sujet vers le bien. Le bien, il est toujours existant. Je n'aime pas une cuidité. Je n'aime pas quelque chose d'universel. J'aime toujours quelque chose de singulier. Une réalité singulière, une réalité existante. Et je suis en connaturalité vis-à-vis de cette réalité existante. J'ai un appétit vers ce bien. Cet appétit, c'est le sujet. Alors, vous voyez la très grosse difficulté. C'est lorsqu'il s'agit de l'amour, le sujet qui est complexe, mais qui est un dans son existence, est donc lié au bien. Le bien qui est sa fin. Il l'aime. Il est attiré vers le bien. Le bien, c'est ce qui attire toute chose. Alors, il est évident que dans cet amour, il y a des éléments qui dominent. Et c'est pour ça que je pourrais l'appeler l'amour spirituel. Si c'est l'élément spirituel qui domine, si c'est l'élément imaginatif, je dirais que c'est un beau rêve. Si c'est l'élément passionnel qui attire, je dirais que c'est un amour passionnel. Ou si c'est l'instinct, je dirais érotique. Au sens propre. Hein. Eros, c'est l'instinct. L'amour érotique, c'est l'instinct. C'est l'amour érotique qui domine. Mais au fond, il y aura toujours le lien. Je ne peux pas séparer. C'est très très curieux cela. C'est très curieux. Je peux ordonner ces amours en voyant qu'il y en a un qui est proprement humain, et que les autres sont communs avec les animaux. Le chien qui aboie la lune. Vous voyez, l'amour imaginatif du chien. C'est extraordinaire, ça. Il est saisi par ça. Il n'y a pas que le chien qui aboie la lune. Vous voyez, c'est, mais le chien aboie la lune. Il est saisi par ce climat particulier. Je ne sais pas ce qu'il pense à ce moment-là. Ce serait très intéressant de savoir. Mais il aboie la lune. Il est saisi par ce milieu particulier. Il est saisi par ça. Alors, il est dans cet appétit particulier. Il y a l'instinct, il y a la passion, l'imagination. Ça, c'est pas mal, l'animal. Donc, au point de vue de l'homme, c'est l'homme qui va me permettre de préciser et de hiérarchiser ses amours. Ce n'est pas directement l'amour. C'est l'homme qui est impliqué dedans. Vous voyez ? La différence avec la connaissance. La connaissance s'ordonne par elle-même, l'amour s'ordonne par l'homme. Ça a d'immenses conséquences, ça, au point de vue éthique. Vous voyez, parce que je peux discuter indéfiniment sur l'amour. Et certains diront, ah non, moi je ne suis que pour l'amour passionnel. Il n'y a que là où l'amour est vrai amour. Dès que je mets par rapport à l'homme, ça devient tout à fait autre chose. Parce que je vois que l'amour passionnel n'attend qu'un bien sensible. Et donc, ce n'est pas l'homme. Alors, vous comprenez que je ne peux hiérarchiser l'amour que par quelque chose qui est en dehors de l'amour, ou la connaissance, ou l'homme. En éthique, je hiérarchiserai l'amour par l'homme, en critique, je hiérarchise l'amour par la connaissance. Il me semble qu'on doit dire ça. Si vous trouvez autre chose, vous me le direz. Parce que c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir comment je ne peux pas hiérarchiser l'amour par lui-même. Je ne peux hiérarchiser l'amour que par l'homme qui aime. Pourquoi ? Parce que l'amour est toujours concret, toujours lié à l'exercice même de cet amour. Tandis que la connaissance peut s'abstraire, et donc j'ai une possibilité de hiérarchiser la connaissance pour elle-même et par elle-même. Bon, une fois que j'ai vu cela, je vois que ma critique va regarder l'amour en fonction de la connaissance. Pas directement, il n'y a pas d'ordre affectif direct. Donc, en fonction de ma connaissance. Et la critique ne regarde l'homme qu'en fonction de la connaissance. Donc, ceci me permet de voir que la critique va commencer par la connaissance intellectuelle. Deuxième question, la connaissance intellectuelle. J'espère que vous voyez l'ordre. Très important. Nous avons vu la multiplicité des connaissances et nous avons essayé de préciser l'ordre de ces connaissances. Et en voyant l'ordre de cette connaissance, nous avons vu que seule la connaissance intellectuelle implique une attitude réflexive. La connaissance sensible n'implique pas en elle-même d'attitude réflexive. Donc je ne peux pas commencer ma critique par la connaissance sensible. Je ne peux commencer la critique que par la connaissance intellectuelle, qui est la seule réflexion. J'ai regardé le point de vue affectif, en voyant comment le point de vue affectif intervenait au point de vue de la connaissance, je me suis posé la question, puis-je ordonner l'affectivité par elle-même ? Je vois que je ne peux l'ordonner que par l'homme, mais la critique ne porte pas sur l'homme, elle porte sur l'intentionnalité. Or, au point de vue intentionnalité, je ne peux pas ordonner l'amour pour lui-même, je l'ordonne que par la connaissance. Je viens donc à cette seconde question, la seconde question, la connaissance intellectuelle. Vous voyez, il faut toujours réduire le multiple vers quelque chose de plus simple. C'est une méthode réductive, la connaissance critique. Et nous essayons de découvrir l'élément de la connaissance, ce qu'il y a de plus simple dans la connaissance. Ce n'est pas si commode que ça de découvrir. La preuve, c'est que quand vous regardez les philosophes, vous voyez qu'il y a beaucoup de manières de regarder ce qui est le plus simple dans la connaissance. Alors c'est ça qui nous intéresse, c'est le noyau de la connaissance, à partir duquel toutes les autres choses peuvent s'organiser. Saisir le noyau organique, le noyau premier de la connaissance. Alors, Nous avons donc, nous ramenons tout à la connaissance intellectuelle. Nous voyons que la connaissance intellectuelle est multiple, nous l'avons vu. Mais je ne veux pas regarder ici la diversité des développements intellectuels, je veux chercher la structure. C'est ça qui m'intéresse au point de vue critique. La structure profonde de la connaissance intellectuelle, laissant dans un autre développement, qui sera au terme de la critique, les développements des diverses sciences et l'ordre des sciences entre elles. Quel rapport peut-il y avoir entre mathématiques et philosophie ? Quel rapport peut-il y avoir entre les sciences et la philosophie ? Quel rapport peut-il y avoir entre l'expérience et la philosophie, l'expérience et les mathématiques, l'expérience et la science ? Vous voyez ? Ça, c'est un autre secteur. C'est très, très important, mais c'est un autre secteur. Ce n'est pas ce qu'il y a de premier, puisque c'est déjà très, très complexe. Mais cette structure intellectuelle se retrouve nécessairement présente dans le développement philosophique, dans le développement mathématique, dans le développement des sciences multiples. Il faut donc essayer de trouver ce qu'il y a de fondamental, et là on pourrait dire l'épistémologie fondamentale, la critique fondamentale, pas l'ontologie fondamentale, mais ce qu'il y a de fondamental dans l'intentionnalité, ce qu'il y a de premier dans l'intentionnalité. Je vois que la structure de l'intelligence se présente à moi, et je crois que très vite je peux le saisir, comme impliquant les raisonnements et impliquant des jugements. Toute science, mathématique, philosophique et les autres, implique toujours des raisonnements et des jugements. Tout le monde l'admet. Ça, c'est la structure. Vous n'allez pas définir les mathématiques. Ah, il y a des connaissances, il y a des raisonnements. Oui, mais il y a des raisonnements en philosophie, il y a des raisonnements en logique, il y a des raisonnements en science. Ah, les mathématiques, c'est des jugements. Mais non, il y a des jugements partout. Oui, là, je suis devant la structure, et non pas le côté perfection de la connaissance qui va se perfectionner dans des sens différents. Et ça, c'est important à noter. C'est tout de suite la structure de l'intelligence, de la connaissance intellectuelle qui m'intéresse. Je vois que cette structure se ramène au raisonnement et au jugement. Je peux tout de suite voir que les raisonnements sont quelque chose de beaucoup plus complexe. En ce sens que tous les raisonnements présupposent des jugements. Tandis que les jugements ne présupposent pas nécessairement des raisonnements. Donc, il y a une complexité plus grande dans le raisonnement que dans le jugement. Or, je cherche ce qui est indivisible, je cherche ce qui est élémentaire, je cherche ce qui est premier, fondamental. Donc, je ne vais voir le raisonnement qu'après le jugement. Je vais donc regarder en premier lieu les jugements. Mais c'est très simple comme petit raisonnement. C'est toujours voir ce qui est impliqué dans un autre et ce qui n'implique pas l'autre. Raisonnement voit la complexité. C'est ça le propre de la réduction. C'est les implications. Voir ce qui implique un autre et ce qui n'est pas impliqué par l'autre. Alors, ça me permet de réduire ça. Ça me permet de comprendre ce qu'il y a de plus fondamental et de premier. Mais ce n'est pas du tout un raisonnement métaphysique. En métaphysique, en philosophie première, je ne prends pas beaucoup ce raisonnement, vous le verrez. Tandis qu'en critique, je prends ce raisonnement de réduction, ce qu'on retrouve dans la phénoménologie. Parce que dans la phénoménologie, il y a des quantités d'éléments qui sont des éléments critiques. De réduction pour essayer de saisir ce qu'il y a de premier et de fondamental. Donc, je dois regarder le jugement. Je dois me poser la question, est-ce que le jugement est bien la connaissance intellectuelle la plus simple ? Grave question. La plus simple, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle indivisible. Si elle est simple, elle est indivisible. Je ne peux pas la diviser en d'autres choses. Et bien très vite, je m'aperçois que les jugements sont complexes. Mais ils peuvent être complexes du côté de l'extension tout en restant quelque chose de premier. Eh bien, ils sont complexes non seulement du côté
de l'extension, il y a une complexité interne, immanente au jugement. Cette complexité, je la vois tout de suite du fait que je vois que les jugements se manifestent à moi comme jugement affirmatif et jugement négatif.
Une chose très curieuse, de constater que l'intelligence dans le jugement apparaît tout de suite comme affirmatif et négatif. Si le jugement est affirmatif et négatif, c'est qu'il implique une complexité. Non seulement du côté de l'extension, mais une complexité interne, de structure. Et donc le jugement n'est pas premier. Vous voyez comment l'affirmation et la négation me permettent tout de suite de voir qu'il y a à l'intérieur même de la structure du jugement, au point de vue connaissance, quelque chose qui n'est pas premier, puisque ce n'est pas simple. Une connaissance absolument simple serait toujours affirmative. Une connaissance qui peut être négative et qui est négative, je peux affirmer il y est. Prouve qu'il y a à l'intérieur même de cette connaissance affirmative une possibilité de se nier. Donc c'est complexe. C'est pas simple. Je ne me pose pas la question ici, est-ce que l'affirmation est avant la négation? Nous le reverrons à propos du jugement. Je cherche l'élément. Je cherche à scruter le plus loin possible pour saisir quelle est ma connaissance élémentaire. Tant que je n'ai pas saisi ma connaissance élémentaire, je n'ai pas découvert le roc sur lequel je peux m'appuyer, sur lequel toute ma critique s'appuiera. Et comme c'est intéressant de savoir ça. Si je veux avoir un tout petit peu d'ordre dans mes connaissances, chercher quel est le noyau qualitatif de ma connaissance. Je vois que je ne peux pas m'arrêter au jugement. Si simple qu'il soit, c'est-à-dire au jugement d'existence, parce que je peux dire « ceci est » et je peux dire « ceci n'est pas ». Il y a à l'intérieur du jugement la possibilité d'affirmer lié. Même le jugement le plus simple. D'autre part, il y a un autre signe très net, c'est que le jugement s'exprime justement dans ce qu'il a de plus simple, « ceci est ». Il s'exprime de cette manière qu'il y a le nom et le verbe. Donc il y a deux. Le verbe est relatif au nom et le nom supporte le verbe. Il y a donc une complexité interne au jugement d'existence, au jugement affirmatif. Et cette complexité se manifeste à travers le langage. C'est un signe de cette complexité. Le langage exprime cette complexité. S'il y a complexité dans le signe, il y a complexité aussi dans la réalité qui est exprimée par ce signe. Et cette complexité, je la vois tout de suite par l'affirmation et la négation. Vous voyez comment je puis montrer que je ne puis pas m'arrêter au jugement. C'est très important ça. Parce que des quantités de philosophie s'arrêtent au jugement. Je crois que l'idéalisme constamment s'arrête au jugement. Si ce n'est donc pas ce qu'il y a de premier, qu'est-ce qui est premier? J'ai le nom et le verbe. Alors est-ce que ce sont les deux éléments? Le nom est avant le verbe, puisque le verbe est relatif au nom. Et donc je me pose la question, est-ce que le nom est saisi par une opération intellectuelle antérieure au jugement. Puisque c'est à l'intérieur du jugement, me posant la question « ceci est », Pierre est grammairien, Pierre est intelligent, Pierre raisonne, est-ce que le mot « Pierre », qui est un sujet, qui est un nom, est-ce que Pierre est saisi par une opération
antérieure au jugement. Qu'est-ce qu'il peut répondre ? Qu'est-ce que vous diriez ? Quels sont ceux qui considèrent que le non est saisi par une opération antérieure au jugement ? Qui lève la main ? Ça m'amuse, ça m'intéresse de voir ça. Un petit test, de voir un peu si vous avez réfléchi au problème. Ceux qui ont déjà réfléchi, tant mieux. Donc personne ne dit que le non est saisi par une opération antérieure au jugement. Quels sont ceux qui disent que le non est saisi par le jugement et donc que le non ne peut pas être saisi par une opération antérieure au jugement ? Qui lève la main ? Quelle indifférence ! Donc c'est la sainte ignorance. Vous croyez que le non est saisi par une opération antérieure au jugement ? Pas postérieure, à l'intérieur. Est-ce que le nom est saisi dans le jugement ou est-ce que le nom... Donc, vous voyez, la question est celle-ci. Hein. Je vois que le jugement est complexe. Non ? Je vois que le jugement implique nom et verbe. Alors, je peux faire le même raisonnement pour le verbe, mais comme le nom est plus fondamental que le verbe, j'aime mieux le poser par rapport au nom. Et je me pose la question, est-ce que le nom est saisi par une opération antérieure au jugement ? Non. Donc, tout le monde est d'accord que le nom n'est pas saisi par une opération antérieure au jugement. C'est intéressant, vous voyez, quand vous parlez des noms de Dieu. C'est saisi dans une opération qui implique un jugement. Donc ce n'est pas saisi par une opération antérieure au jugement. C'est saisi à l'intérieur du jugement. Dans le jugement, si j'analyse le jugement, il y a nom et verbe. Et les deux sont corrélatifs. Et pourquoi le nom est-il saisi toujours à l'intérieur d'un jugement ? Pourquoi je ne peux pas dire le nom implique une opération antérieure. Ou plus exactement, le nom est saisi, parce que c'est mieux, implique, je pourrais le dire, mais le nom est saisi par une opération antérieure. Pourquoi je ne peux pas le dire ? Parce que le nom est saisi toujours d'une manière concrète. Donc, il est toujours relié à l'existant. Je sais très bien, je peux dire « la blancheur est admirable ». Quand vous dites « la blancheur est admirable », »,« blancheur » sert de nom. Et « blancheur » est abstrait. Et n'est pas concret. Ce n'est pas du tout un jugement tout à fait premier. Et je fais de l'abstrait un nom auquel je lui donne une existence. En réalité, il n'y en a pas. Parce que le nom est toujours relié à l'existence. Et c'est pour ça qu'il est relié au jugement. Et au jugement d'existence. Il seul touche l'existence. Donc, le nom est toujours saisi à l'intérieur d'un jugement. Mais est-ce que le jugement est quelque chose de premier? J'ai dit non, parce qu'il est complexe. Quelle est donc l'opération antérieure au jugement? Alors, je dirais qu'il y a une opération antérieure au jugement. Qu'est-ce qui me permet de déceler ça? Je dirais le langage, premièrement. Je cherche dans une manière réductive, hein, le langage. Le langage implique certaines certains mots qui sont simples.
Ce que Aristote appellera les catégories.
C'est intéressant de voir là, les catégories qui apparaissent. Les catégories, Aristote parlera des catégories. Et dans les catégories, si vous connaissez bien les catégories, vous devez les connaître parfaitement, dans les catégories, vous avez que la première catégorie, c'est la substance première, qui d'une certaine manière n'est pas une catégorie, puisque toutes les catégories sont relatives à la substance première. Or, la substance première, c'est le nom. Donc, vous voyez bien, vous êtes en face d'un langage qui présuppose le jugement. C'est très curieux. Toutes les catégories présupposent la substance première. Toutes les catégories présupposent la substance première. Je ne peux pas connaître les catégories sans regarder la substance première. Mais les catégories sont des attributions simples. Ces attributions, c'est par exemple blanc ou blancheur. C'est homme ou humanité. C'est quatre pieds. Et ainsi de suite. C'est la vertu, c'est l'intelligence, c'est la volonté. Ce sont des attributs simples qui sont relatifs à la substance première. Le langage me montre qu'il y a des mots qui ont une signification simple. La qualité a une signification simple. La quantité a une signification simple. Quelquefois complexe, diverse, mais il y a quand même quelque chose qui est simple, c'est-à-dire qui est irréductible à autre chose. Donc, les mots. Mais vous voyez bien que le langage ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que si je regarde le langage, je vois que ces mots, ces catégories, présupposent la substance première. La substance première, elle est donnée dans le nom et donc dans le jugement. Or, je cherche quelque chose qui est antérieur au jugement. Et je découvre quelque chose qui est postérieur au jugement. Vous voyez la bouteille à l'encre. Elle est là. C'est intéressant de voir ça. C'est que les catégories, toutes les catégories présupposent la substance première. Pierre est un homme. Pierre est intelligent. Pierre mesure tant. La mesure, donc ça présuppose toujours la substance première. La substance première, c'est Pierre. Donc c'est un nom. Or, les catégories présupposent la substance première. Et ici, je cherche qu'est-ce qui est antérieur avant Pierre. C'est bien ce que je cherche. Et je dis, prenons les catégories. Mais les catégories ne me disent pas ça, parce que les catégories sont relatives à la substance première. Vous voyez que par le langage, je ne peux pas résoudre. Je vois qu'il y a un problème. Ah, ça, c'est intéressant. Je vois qu'il y a un problème, et c'est très intéressant de saisir ce problème. C'est que, à la fois, les attributions simples présupposent la substance première, mais les attributions simples sont saisies indépendamment de la substance première. Il est bien évident que l'intelligence est saisie indépendamment de Pierre. Il n'y a pas que Pierre qui est intelligent. Il est intelligent, il est très intelligent, Pierre. Mais il n'est pas adéquat à l'intelligence. Donc, il n'y a pas que Pierre qui est intelligent. Thomas est intelligent aussi. C'est bien évident. Donc, il n'y a pas que Pierre qui est intelligent. Si Thomas est intelligent et que Pierre est intelligent, l'intelligence n'est pas liée au sujet Pierre. L'intelligence est saisie pour elle-même. Et donc, les attributs qui sont relatifs à la substance première sont saisis pour eux-mêmes et en eux-mêmes. Ils ont leur propre intelligibilité. Et donc, ils apparaissent dans les catégories comme relatifs à la substance première, mais ils ont une intelligence indépendante. Alors, qu'est-ce qui me permet de saisir une connaissance antérieure au jugement ? Le langage me pose le problème avec acuité. S'il n'y avait rien avant le jugement, il n'y aurait pas les catégories. Ça, je peux le dire. S'il n'y avait aucune opération d'intelligence avant le jugement, les catégories n'existeraient pas.
Or, les catégories existent, je m'en sers constamment, le langage est là pour me montrer que c'est indispensable au langage, donc il existe nécessairement une opération antérieure au jugement qui me fournit les catégories. Mais d'autre part, les catégories sont toutes relatives au jugement, puisqu'elles sont toutes relatives à la substance première. Donc, cette antériorité de cette opération par rapport au jugement n'est pas une antériorité existentielle. Puisqu'au niveau de l'attribut, où je suis au niveau de l'existence, toutes les catégories sont relatives à la substance première. Donc cette opération n'est pas une opération antérieure qui existe antérieurement au jugement, d'une antériorité existentielle. Mais elle existe avant le jugement d'une antériorité d'un type très particulier, d'un type qui présuppose une analyse, qui présuppose peut-être même une réduction, peut-être même la réduction qui serait le mieux à dire. C'est que je ne peux pas m'arrêter au jugement et je dois nécessairement réduire le jugement à une autre opération antérieure. Dualité du jugement m'empêche de considérer que le jugement comme fondamental. Je dois donc ramener cette opération du jugement à une autre opération qui est ce qu'on appelle la saisie, l'appréhension. La saisie des termes simples, l'appréhension des déterminations simples. Il existe une opération, je suis obligé de poser. Je n'ai aucune, on va voir dans quelle mesure, je n'ai pas de conscience immédiate de cette appréhension. Vous avez donc raisonnement 1, vous avez jugement 2, vous avez appréhension 3. Alors, il faut maintenant bien saisir cette appréhension qui saisit les catégories. C'est-à-dire qui saisit les déterminations simples de la réalité et qui les exprime. Qui saisit ces déterminations qui ont leur signification propre. Alors maintenant, il s'agit de comprendre. Alors nous entrons dans le troisième moment de la critique. Il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est que cette appréhension. Je pose cette connaissance antérieure au jugement comme une connaissance sui generis, une connaissance qui a son caractère propre, une connaissance qui n'est pas le jugement, qui n'est pas le raisonnement, que le jugement présuppose, mais qui ne peut pas exister en dehors du jugement. Exactement comme les catégories. Alors nous verrons ça la fois prochaine. Alors ça, c'est de la confiture. C'est de la confiture, ça. Ou c'est la goutte de lait. C'est les premières, quand on coule très rapidement, ça déborde.
Thank you.